VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Nigeria, multiplication dans le nord-est des attaques du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.
Le Pentagone a commencé à réajuster ses forces en Afrique avec le rapatriement d'une unité de combat qui sera remplacée par des instructeurs militaires.
En Guinée, reprise hier des manifestations contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola demeure encore une urgence internationale pour 3 mois, selon l'OMS.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine s'établit maintenant à près de 60 000 cas de contamination, dont au moins 1355 mortels.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest multiplie les attaques dans le nord-est du Nigeria, une recrudescence inquiétante pour le président Muhammadu Buhari qui s'est rendu dans la région mardi. Le point avec Bagassi Koura.
Lundi, des combattants de ce groupe ont attaqué un poste militaire dans le village de Tungushe, près de Maiduguri, tuant un soldat et blessant un autre. Les insurgés se sont ensuite rendus dans la ville voisine de Gayigana. Ils ont tué un autre soldat et ont emporté un véhicule militaire. À Ran, à la frontière avec le Cameroun, des insurgés arrivés à moto et des véhicules équipés de mitrailleuses ont attaqué les positions militaires. Quelques 35 000 déplacés ont trouvé refuge dans cette ville, qui a déjà subi des attaques répétées. Le personnel humanitaire n'y a plus accès pour des raisons de sécurité. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué la responsabilité de ces 3 attaques. Dimanche, au moins 30 civils ont été tués, la plupart brûlés vifs près du village d'Ono. Ce massacre n'a pas été revendiqué. Le président Muhammadu Buhari a effectué hier une brève visite surprise à Maiduguri. Il est très critiqué pour son bilan sécuritaire. Il n'a pas mis fin au conflit et ne parvient pas à réduire l'insécurité qui gangrène le reste du pays. Le gouverneur de l'État du Borno, Babagana Zulum, proche du président Buhari, a d'ailleurs jeté un pavé dans la mare lundi en critiquant avec virulence l'inaction de l'armée nigériane pour rétablir une base à Ono, attaquée 6 fois depuis le début de l'année. Selon lui, rien n'a été fait dans ce sens malgré nos demandes répétées, a regretté le gouverneur.
Les États-Unis ont commencé à procéder à des ajustements de force en Afrique en annonçant le rapatriement d'une unité de combat et son remplacement par des instructeurs militaires. Les États-Unis ne vont pas abandonner leurs alliés africains et il s'agit seulement de la première d'une série de mesures qui affecteront la manière dont les militaires américains vont opérer sur le continent africain.
Selon le Pentagone, l'accent va être mis beaucoup plus sur la concurrence avec la Chine et la Russie que sur la lutte antiterroriste. Quelques 6000 militaires américains sont actuellement déployés en Afrique et on s'attend à une réduction de leur nombre. À noter que selon un récent rapport américain, la menace terroriste en Afrique s'accroît alors que beaucoup de forces africaines ne sont pas en mesure d'y faire face toutes seules.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en route pour sa première visite en Afrique qui doit commencer après sa participation à la conférence de Munich sur la sécurité. Sa première étape sur le continent africain sera le Sénégal où M. Pompeo doit s'entretenir avec le président Macky Sall. De hauts responsables du département d'État américain ont loué la démocratie sénégalaise et mis en exergue le partenariat sécuritaire entre les deux pays dans une région qui fait face à l'instabilité, au terrorisme et au conflit. M. Pompeo doit aussi se rendre en Angola et en Éthiopie.
En Guinée, les manifestations ont repris hier. Après une pause de quelques semaines, le pays doit tenir le 1er mars des élections législatives couplées à un référendum constitutionnel. L'opposition dénonce une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un troisième mandat. Le point avec Ekiabadou.
L'appel du collectif de partis d'opposition, syndicats et sociétés civiles a provoqué quelques troubles dans certains endroits de Conakry, a indiqué le ministère de la Sécurité. Le mouvement n'est quasiment pas suivi à l'intérieur du pays, hormis à Koya, à 40 km de Conakry, où il y a eu des barricades, selon le ministère. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations contre le projet prêté au président Alpha Condé de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Un projet de nouvelle constitution sera soumis à référendum le 1er mars, en même temps que des législatives. L'opposition soupçonne que son adoption servirait de prétexte à M. Condé, 81 ans, de briguer un autre mandat. Alpha Condé entretient le flou en affirmant que c'est son parti qui décidera. Il a aussi défendu le référendum, jugeant qu'il n'y a rien de plus démocratique.
L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo demeure encore une urgence internationale pour 3 mois. L'OMS a annoncé la décision hier après une réunion à Genève. Le point avec Eddy Issango.
L'épidémie doit continuer d'être une urgence internationale, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'issue d'une réunion des spécialistes de la maladie. Selon lui, une chute du nombre de cas extrêmement positifs est enregistrée depuis quelque temps. Tedros Ghebreyesus se déclare encouragé par la tendance à la baisse, mais estime que tant qu'il y aura encore un seul cas d'Ebola dans une région dangereuse et instable comme l'est de la RDC, des potentiels existent pour une épidémie bien plus grande. L'OMS a en juillet qualifié d'urgence mondiale l'épidémie d'Ebola, une dénomination régulièrement soumise à un comité d'experts. L'épidémie s'est déclarée en août 2018 dans la localité de Mangina et sévit dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Environ 2300 décès ont été enregistrés. Il faut 42 jours sans nouveau cas pour que l'OMS annonce la fin de l'épidémie. Le chef de l'OMS a indiqué qu'il s'est rendu aujourd'hui en RDC pour rencontrer le président Félix Tshisekedi et parler notamment du renforcement du système de santé dans le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a grimpé ce jeudi à près de 60 000 cas de contamination, dont au moins 1355 mortels, en très grande majorité dans le Hubei, où le virus est apparu en décembre. L'OMS avait appelé hier à demeurer très prudent sur la stabilisation du nombre de cas. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi distinguer une évolution positive de l'épidémie à la suite des mesures fortes prises par le régime communiste. Mais cet apparent ralentissement de l'épidémie doit être interprété avec une extrême prudence, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette flambée épidémique peut toujours partir dans n'importe quelle direction, a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse à Genève, au terme d'une réunion d'experts de 2 jours. Le docteur Mike Ryan, chargé à l'OMS de la gestion des situations d'urgence sanitaire, a déclaré que le virus ne semblait pas se développer plus rapidement en dehors de la province chinoise du Hubei, où la grande majorité des cas et décès dus à l'épidémie a été enregistrée, ce qui est un bon signe. Cette propagation plus lente du virus dans les autres provinces chinoises nous donne toujours la possibilité de contenir et de potentiellement interrompre le virus, a-t-il ajouté. Selon le docteur Ryan, 22% des cas de coronavirus hors de Chine sont dus à une transmission locale.
Ici à Washington, le ministre de la Justice, Bill Barr, accusé par l'opposition démocrate d'utiliser son poste pour servir les intérêts personnels du président Donald Trump, a accepté de déposer devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants le 31 mars, selon des élus démocrates. Il lui reproche notamment d'être intervenu dans le dossier de Roger Stone, un ami et ex-conseiller de M. Trump, accusé de mensonge au Congrès et dont la peine doit être prononcée le 20 février. Après un tweet désapprobateur du président Trump, la sentence recommandée par les procureurs a été adouci. Ces derniers, en réaction, se sont retirés du dossier. Hier, M. Trump a félicité M. Barr pour son intervention, tout en estimant que ses tweets n'étaient pas une ingérence politique dans une affaire judiciaire en cours.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minuteko, Nani Talani.
En RDC, l'homme d'affaires Moïse Katumbi a entrepris ce mercredi de récupérer sa société minière après que la justice française a restitué ses droits sur Mining Company Katanga, cédée en 2015 à Necotrans, la firme française aujourd'hui liquidée. Sur 140 millions de dollars, Necotrans n'avait payé que 20 millions. Frauduleusement, une nouvelle cession a été opérée au bénéfice du groupe français Octavia. Les manœuvres frauduleuses de cession des parts de M. Katumbi ayant échoué, nous allons reprendre tout le patrimoine et poursuivre ceux qui en jouissent illégalement, a indiqué son avocat. Anglo Ashanti veut vendre ses actifs sud-africains restants pour environ 300 millions de dollars à Harmony Gold dans 9 mois. La cession inclut Poneng, la mine d'or la plus profonde du monde, ainsi qu'une entreprise de traitement des décharges de roches de surface et une opération de retraitement des déchets miniers. Elle fera de l'acheteur le plus grand producteur d'or du pays. Anglo Gold veut réduire son portefeuille et se concentrer sur les actifs ayant de plus grands rendements. Pour terminer, le Soudan continuera à subventionner le pain pendant la transition, mais souhaite obtenir la justice dans la distribution des aides aux revenus, a déclaré mercredi son ministre du Commerce et de l'Industrie. Dans 45 jours, le gouvernement lancera également des boulangeries commerciales qui vendront du pain non subventionné en s'appuyant sur des stocks commerciaux. Cela pourrait permettre aux boulangeries de vendre du pain à un prix supérieur à celui fixé actuellement à 1 ou 2 cents américains. La pénurie de pain a déclenché des manifestations de masse qui, avec l'aide des militaires, a renversé Omar el-Béchir en avril dernier après 3 décennies au pouvoir.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouvel accord de siège entre la CAF et l'Égypte.
Oui, après 4 ans de négociations, la CAF et l'Égypte ont renouvelé pour 10 ans une convention pour l'hébergement du siège de l'institution au Caire. Au terme de cet accord, la CAF bénéficiera de plusieurs avantages, immunités et privilèges similaires à ceux accordés aux membres des organisations internationales et des missions diplomatiques. Lit-on dans un communiqué de l'instance continentale du football, le président Ahmad, le premier ministre égyptien Mustapha Madbouly et le ministre des Sports Ashraf Soubi ont paraphé l'accord. La convention comporte également un ensemble de concessions fiscales et douanières qui seront mises en place, précise la partie égyptienne. L'accord reconnaît aussi à la CAF une personnalité juridique internationale en tant qu'organisation non gouvernementale.
Samuel Eto'o dit non à l'idée d'organiser la CAN tous les 4 ans.
Oui, l'ancien international camerounais estime qu'organiser la CAN tous les 4 ans, comme l'a suggéré le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas une bonne idée. Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les 4 ans? Je crois que c'est plutôt celui des Européens. Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang. La FIFA défend l'intérêt des clubs européens, a déclaré le quadruple ballon d'or africain dans l'émission Le Débat africain sur RFI. Comment va-t-on financer notre football? Où va-t-on trouver l'argent avec une CAN tous les 4 ans? Nous devons mettre notre football au niveau de celui des Européens, a ajouté Samuel Eto'o, un avis qui tranche avec celui de Didier Drogba, l'ancien international ivoirien qui se dit favorable à une CAN tous les 4 ans.
Didier Six a enfin son contrat.
Oui, nommé à la tête du Sélection national guinéen depuis septembre 2019, Didier Six a maintenant signé son contrat. La Fédération guinéenne de football a annoncé la signature d'un bail de 3 ans, avec le technicien français. L'ancien sélectionneur du Togo avait pris les rênes du Sili national après le départ du Belge Paul Put. Avec Didier Six, la Guinée partage la tête de son groupe de qualification pour la CAN 2021 avec le Mali, 4 points chacun. Prochaine sortie contre le Tchad le mois prochain.
Iker Casillas veut briguer la présidence de la Fédération espagnole.
Selon la radio Cadena Ser, le capitaine champion du monde 2010 avec la Rora a pris la décision de se présenter à la tête de la Fédération espagnole de football. Casillas a fait part de ses intentions à la secrétaire d'État au sport et présidente du Conseil supérieur des sports, Irène Lozano. Selon le journal AS, le gardien du FC Porto, 38 ans, a rencontré Irène Lozano pour se renseigner si une élection anticipée allait être organisée. Les élections doivent avoir lieu après les Jeux Olympiques de Tokyo, mais la Fédération espagnole de football a demandé à les avancer en raison de l'Euro qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Ah, ça n'a pas été facile pour les LA Lakers qui ont joué les prolongations avec Denver avant de venir à bout des Nuggets 120 à 116. Milwaukee a lui perdu face à Indiana 118 à 111. Toronto a de son côté perdu face à Brooklyn 101 à 91, Dallas a battu Sacramento 130 à 111 et Cleveland Atlanta 127 à 105. Orlando et Détroit 116 à 112, Washington et New York 114 à 96, Utah et Miami 116 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes armés dans les régions anglophones avant les élections législatives et municipales de dimanche. C'est ce qu'a annoncé hier Human Rights Watch, tout en accusant les militaires camerounais de nouveaux abus. John Linden a joint Ilaria Allegrosi, chercheuse principale pour l'Afrique centrale, à Human Rights Watch.
Dans notre rapport, nous avons montré comment ces élections du 9 février se sont déroulées dans un climat de violence, d'insécurité, d'intimidation, de peur et d'exactions croissantes. Ces violences ont été perpétrées surtout par les séparatistes armés dans la période préélectorale. Afin de pouvoir documenter ce cas d'abus et d'exactions, nous avons récolté des informations à travers nos sources sur les terrains et nous avons également analysé des images satellitaires qui nous ont permis de montrer, par exemple, l'extorsion des biens, l'incendie des maisons.
Vous accusez également les forces de sécurité de l'État de n'avoir pas suffisamment protégé les civils contre les menaces posées par les séparatistes et d'avoir commis elles-mêmes de nouveaux abus à leur encontre au cours de la même période. Quelle est la position de l'armée ou des autorités camerounaises face à ces accusations?
Nous n'avons pas encore reçu une réponse officielle de la part des autorités. Nous avons quand même pu rencontrer les autorités il y a même pas trois semaines quand une délégation de Human Rights Watch s'est rendue à Yaoundé. Nous avons pu nous entretenir avec des membres de la présidence et nous avons discuté avec eux de nos préoccupations par rapport à la situation des droits de l'homme, surtout dans les régions anglophones. Nous pensons que les forces de sécurité sont dans l'obligation d'apporter une réponse conforme aux droits, de protéger les droits des populations pendant les périodes de violence, tel est le cas de la crise dans les régions anglophones. Mais malheureusement, nous avons constaté dans notre rapport qu'elles n'ont pas suffisamment protégé les civils, justement des menaces posées par les séparatistes. Et nous avons documenté des cas d'exaction pendant des opérations de sécurité menée par les gendarmes, les militaires, notamment dans un village du nord-ouest du Cameroun.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à votre avis, pour éviter de pareilles tueries à l'avenir?
Déjà, nous pensons qu'il faudra se pencher sur la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les pays et avoir une lecture réaliste de ce qui se passe dans les régions anglophones. Nous sommes au point où nous constatons une réelle divergence entre les réalités sur le terrain et les récits officiels et les récits des séparatistes. Afin de faire face à cette crise de manière réaliste, nous pensons qu'il est impératif que des informations fiables soient fournies sur l'ampleur de la violence, sur aussi l'identité des auteurs présumés.
Ilaria Allegrosi, chercheuse principale pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections législatives et municipales se sont tenues le week-end écoulé au Cameroun. Les observateurs parlent d'un fort taux d'abstention et le RDPC au pouvoir devrait maintenir sa majorité au Parlement. Du côté de l'opposition, le MRC de Maurice Kamto, qui avait appelé au boycott, se frotte les mains. Ceci alors que les zones anglophones continuent de subir les effets de la violence qui y sévit depuis trois ans. Le président Biya a lancé un appel aux jeunes des régions anglophone à déposer les armes. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la radio, nous vous proposons à cette occasion ce matin une série de reportages avec nos correspondants au Gabon, au Tchad et au Sénégal. D'abord le Gabon où, selon notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, le média, c'est-à-dire la radio, domine toujours malgré la concurrence.
Urban FM, la première radio urbaine du Gabon, est un exemple de station radio qui a su s'adapter aux nouvelles tendances.
On a trois studios, on a un bleu, on a un jaune et le studio mobile.
Ici la musique est reine, mais pas seulement. La radio va au-delà du divertissement pour aborder les questions de société. Au Cos Simplice, l'un de ses animateurs tient une tranche de programme interactif.
Allô.
La mise en scène des émissions d'Urban FM est facilitée par une plateforme technique moderne.
On a ici donc une table de mixage et toute la diffusion en studio de ce côté-là. Donc c'est les appareils qui nous permettent, nous, de relier tout ce qui est affaires téléphoniques, table de mixage aux ordinateurs et aux écrans.
Le Gabon compte actuellement une cinquantaine de radios, dont des radios publiques, privées et communautaires. Même si cette pléthore de stations cache encore d'énormes carences, quelques-unes semblent se distinguer. Nick Jocelyn Fouba est chef de service des actualités à Radio Gabon.
Vous avez un très bon élément, mais qui n'est pas de bonne qualité. Vraiment, ça dénature votre journal. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, tous nos correspondants nous envoient des éléments maintenant par WhatsApp, par exemple, et la qualité du son est géniale.
Les professionnels du métier sont unanimes sur les progrès qu'offrent les nouvelles technologies numériques, contrairement à la radio analogique. Un avis que ne partage pas Pierre Zassi, journaliste producteur à la Radio Nationale.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, vous êtes dans le néant. Or, nous, on nous apprenait à faire le montage sur le Nagra, on nous apprenait à faire le montage sur le Sareg ou encore le Sud-Argé. Et on nous apprenait aussi à faire le montage à travers les cassettes. Aujourd'hui, vous demandez aux jeunes, ils vous diront que c'est de l'ancestralité.
C'est tout le mythe de la bonne vieille radio qui est ici en débat. Blanche Bitta, journaliste à la deuxième chaîne publique du Gabon, reste nostalgique d'un passé glorieux des grandes radios africaines.
C'est fini la radio de nos voix. Il y a des voix qui ont bercé notre enfance. Les Patrick Guimondon, Sergio Pout au Cameroun, Moïse Benteke, paix à son âme. J'avais l'impression de la vivre en fait. Je me souviens par exemple, pour parler de Patrick Guimondon, de l'émission Les Aventures Mystérieuses, c'était un film radiophonique, mais tu avais l'impression de voir le film.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Pluralisme, représentation, diversité, c'est le thème de la Journée mondiale de la radio au Tchad où, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmadjingar, les journalistes, surtout des radios privées, travaillent dans des conditions très difficiles.
Au Tchad, on dénombre une cinquantaine de radios privées en dehors de la radio nationale et les stations provinciales. Mais les jeunes recrutés dans ces médias chauds sont souvent sans qualification. Une situation que déplore Evariste Ngarlem-Toldé, enseignant-chercheur au département de la communication de l'université de N'Djamena.
Quel est ce métier au monde où on peut exercer sans formation? Là où je suis, tout ce que je connais faire, c'est être journaliste. Je ne peux pas être médecin. Mais curieusement, on trouve des maçons, on trouve des menuisiers, on trouve des pêcheurs dans les radios. Mais c'est inconcevable. Il faudrait que ceux qui créent la radio aujourd'hui recrutent des gens qui soient à la hauteur.
Ces personnes, souvent mal payées, se promènent dans les cérémonies officielles pour guetter des perdièmes avec les organisateurs. Cette catégorie de journalistes qualifiés dans le jargon tchadien de JIR, journalistes d'intervention rapide, forme même un collectif dénommé souvent notre week-end, une pratique que dénoncent les professionnels du métier.
C'est un phénomène qui est regrettable et il faudrait franchement y mettre fin.
C'est des jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais ils peuvent trouver mieux ailleurs que de se comporter aller de cérémonie en cérémonie pour juste trouver 5 000 ou 2 000 pour aller rester dans les débits des boissons. C'est vraiment un cancer pour le métier.
À ma connaissance, les jeunes ne sont pas de vrais journalistes. Leurs organes se trouvent dans leur sac. Et ça ternit l'image de notre profession.
Le secrétaire général de l'Union des radios privées du Tchad, Abbas Abakar Abbas, demande aux responsables des radios privées membres de son organisation de penser au plan de formation de leurs agents.
Si nous voulons arriver au professionnalisme, il faut vraiment renforcer la
capacité de tous les médias, surtout radio, parce que dans une rédaction, si par exemple il y a des pléthores, on ne peut pas prendre les journalistes qui travaillent en charge. En faisant cela, on est en train d'étouffer plus le métier du journaliste parce qu'on a employé quelqu'un qui ne peut pas bien faire son travail.
Et c'est dans ces conditions peu reluisantes que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissen, appelle les journalistes à plus de professionnalisme et d'être agents au service de développement.
La radio catalyse les idées et les initiatives et influence le comportement des populations. C'est pourquoi son utilisation positive constitue un levier important de développement. Le communicateur est par essence un agent de développement. À ce titre, il participe aux actions et initiatives qui font promouvoir la société.
Les responsables de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel demeurent convaincus que seule l'application de la convention collective peut définitivement régler le problème de précarité dans le paysage médiatique tchadien. André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Et au Sénégal, loin d'être bousculé par la technologie, la radio a dû s'adapter pour survivre, comme l'indiquent les citoyens sénégalais rencontrés par notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Jadis, la radio était un poste autour duquel l'on se regroupait pour écouter une information ou une émission. Aujourd'hui, l'usage de la radio est beaucoup plus centré et personnel, comme l'indique le vieil Adjane Ndiaye, qui ne cache pas sa nostalgie.
Autant les anciens utilisaient la radio pour écouter les informations à chaud. C'était ce qui se passait avec nos parents et nos grands-parents, car au-delà d'un simple appareil, la radio était un compagnon pour eux. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui est en train de disparaître avec la nouvelle technologie, notamment les réseaux sociaux qui exploitent et diffusent l'information d'ici et d'ailleurs à une vitesse incroyable.
Cette mutation est tout à fait normale si l'on se fie au jeune Serigne Oumar Faye. Pour sa trentenaire, l'évolution du monde fait qu'on ne peut plus utiliser la radio comme un médium classique.
Il n'est plus d'actualité d'écouter la radio comme le faisaient nos arrière-grands-pères ou nos parents, utiliser les radios fixes. Bon, nous les jeunes, on utilise via nos téléphones portables. On peut en fait télécharger des applications via Play Store. De ce fait, on pourra écouter la radio, transporter la radio avec nous partout où on peut aller.
La radio a pu s'adapter à la technologie, mais elle va certainement connaître le même sort que les autres médias classiques qui ont été submergés par les nouveaux médias. C'est du moins l'avis d'Alun Fall, qui estime que la mutation doit être beaucoup plus profonde pour que la radio puisse subsister.
L'objectif premier de la radio, c'était d'informer. La quasi-totalité des auditeurs n'écoutent plus l'information, mais ils s'intéressent plutôt à une forme d'émission, par exemple les faits divers, les émissions de musique et autres. J'ose dire que sans l'information, la radio n'a plus sa véritable quintessence. Il faut adapter la radio par rapport aux nouvelles exigences, c'est-à-dire les technologies par exemple, orienter l'information à certaines heures vu que les audiences ne sont pas pareilles.
Toujours présente, malgré la concurrence des réseaux sociaux et des nouveaux médias, la radio est appréciée de tous, même si les attentes varient selon les générations. Si les plus anciens sont nostalgiques de l'époque du poste radio et des chaleureux moments en communauté qu'il offrait, les plus jeunes espèrent une plus grande mutation de la radio. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Maru.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.